Bonjour, train de nuit et train du quotidien, deux priorités qu'avec l'association MUST, le réseau européen en train a décidé de promouvoir par une série de podcasts dont voici le troisième épisode consacré au train de nuit. La demande est forte dans l'ensemble de l'Europe, avec une nouvelle clientèle qui ne veut plus prendre l'avion entre les grandes métropoles, ni la voiture pour rallier les villes moyennes de montagne. Les seuls trains encore existants ou récemment remis en service n'ont jamais été aussi pleins. Leur développement pose de nombreuses questions. Des possibilités plus nombreuses et plus fiables de faire circuler ces trains la nuit, malgré les indispensables travaux à réaliser sur les voies ferrées. La nécessité de nouveaux matériels roulants, plus confortables, avec un wagon spécial pour les vélos et de la restauration légère. Leur ouverture à des trajets de proximité en place assise en extrémité de journée. Des correspondances bien conçues au départ et à l'arrivée, un accueil en gare ou encore des douches. Les associations d'usagers ont envie que cela bouge, et vite, dans le cadre d'une vraie stratégie européenne de développement des trains de nuit. Avec nous pour en parler, Alexander Gomme, de l'association Back on Track Belgique, Alberte Bondeau, scientifique usagère du Paris-Briançon, et Benoît Durand, du collectif Rallumons l'étoile à Toulouse. Trois passionnés, écoutons-les.
Bonjour, bienvenue pour ce troisième épisode consacré au train et à la problématique du ferroviaire. Nous allons parler maintenant des trains de nuit, comment le train de nuit peut offrir une alternative concurrentielle à l'avion. Et pour en parler, trois invités. Le premier à côté de moi, Alexander Gomme, bonjour.
Enchanté, je suis Alexander Gomme, je suis conducteur de train à Bruxelles Midi et je suis ici en tant que porte-parole de Back on Track Belgique qui lutte pour le retour du train de nuit.
À côté de vous, Alberte Blondeau, bonjour.
Bonjour, moi je suis habitante de la vallée de la Drôme, donc j'ai la chance d'être sur la ligne du train de nuit Paris-Briançon, qui lui n'a jamais cessé de fonctionner.
Une des rescapées.
Une des rescapées. Et sinon je suis scientifique, je travaille au CNRS à Aix-en-Provence, entre autres sur la problématique des changements climatiques, donc je suis très intéressée par ce renouveau et ce nouvel intérêt plus marqué des politiques pour le train en général.
Et troisième invité, Benoît Durand, bonjour.
Benoît Durand, donc de Rallumons l'étoile, une association toulousaine qui défend un RER, mais qui est aussi, donc Toulouse, la deuxième ligne qui a été maintenue en France, le Paris-Toulouse, et sa prolongation à la Tour de Carole. Et toute l'Occitanie avait énormément de trains de nuit, vu son éloignement de Paris, et on a perdu beaucoup qui mériteraient de revenir.
Alors justement, les trains de nuit ont failli disparaître en France, les deux rescapés que, entre guillemets, vous représentez, ce sont donc le Paris-Briançon et le second en deux tranches au départ de Paris, une vers Rodez-Albi et la deuxième vers Toulouse et la Tour de Carole. Le gouvernement veut les relancer avec un Paris-Nice et un Paris-Lourdes-Tarbes pour commencer. Le train de nuit, ça n'est plus dépassé, monsieur Durand ?
Ben non, c'est pas dépassé parce qu'on se rend bien compte que le TGV ne peut pas aller partout, que même avec des temps de trajet de 3, 4 heures, etc., on ne peut pas arriver le matin tôt dans une ville. Le train de nuit, c'est une heure de trajet, une demi-heure pour s'endormir, une demi-heure pour se réveiller. Et on a énormément de territoires qui, comme ça, peuvent accéder aux longues distances sans être obligé de faire des changements et de passer 5 heures, 6 heures dans les trains.
Alberte Blondeau, vous êtes une grande utilisatrice, vous, de la ligne vers Briançon ?
Oui, je suis une utilisatrice de la ligne vers Briançon. Et ben, je confirme absolument ce qui a été dit. En train de nuit, vous ne perdez pas de temps puisque vous voyagez pendant que vous dormez. Donc c'est clair et net, votre temps de trajet n'empiète pas sur votre journée, ou très peu.
Jamais 203, Alexander Gomme, vous êtes d'accord avec cet argument? Je pense que c'est un des arguments en faveur du train de nuit.
Absolument, c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, on ne perd aucun temps utile en voyageant, donc c'est l'intérêt du train de nuit.
Absolument.
Il permet en fait de couvrir jusqu'à 1500 km, juste en une nuit, ce qu'un TGV ne pourrait jamais faire.
Alors pourquoi le train de nuit a quasiment disparu ? En France, on n'était pas loin. En Europe, c'était aussi quand même bien compromis. Benoît Durand ?
Il y a en France surtout un phénomène TGV, clairement, de report des publics vers les lignes TGV qui s'ouvrent. Nous, ça se voit par exemple sur la ville de Cahors, qui maintenant va devoir passer par Montauban pour remonter sur Paris, alors qu'elle a une ligne directe par Limoges qui va à Paris. Donc remplir les TGV, c'est la première chose en France. Il y a le deuxième chose, c'est l'outil, c'est qu'on a les rames corail qui commencent à être très vieilles, 40, 50 ans. et que plutôt que se dire de relancer des séries et de repenser un peu quels pourraient être les publics pour le train de nuit et quel territoire serait intéressant pour le train de nuit, on a préféré tout miser sur le TGV et voilà, sans réfléchir à l'alternative et les attraits du train de nuit.
Alors qu'il y a des utilisateurs, Madame Londo, quand vous le prenez, il y a du monde ou...
Ah oui, il y a beaucoup de monde, mais même avant de parler de ce train de nuit spécifique, cette désaffectation du train de nuit, ça s'est aussi passé partout, hein, en Allemagne. La Deutsche Bahn a voulu à un moment supprimer complètement les trains de nuit, et c'est la compagnie autrichienne qui les a repris, et ça a eu un succès énorme. Vraiment, les gens les prennent. Et dans ce train de nuit Paris-Briançon, il y a absolument beaucoup de monde qui le prend. Et maintenant qu'il y a le Paris-Nice,
c'est un seul train jusqu'à Valence, oui. Et ensuite il est séparé en deux, oui. Une tranche sur Briançon, une tranche sur Nice.
Oui, ce qui fait que du coup, il y a moins de wagons pour aller à Briançon quand il y a les deux. Et au moment des vacances de février, eh ben, en 2 heures, c'était complet.
C'est pas la demande qui manque.
C'est pas la demande qui manque, absolument, tout
voilà.
À fait.
En France, comme en Europe.
Oui, tout à fait. Et peut-être qu'au niveau européen, que c'est encore pire. Enfin, je sais pas, mais en Europe, on a presque perdu tout notre train de nuit. En Belgique, pendant une décennie, on n'a rien eu comme train de nuit. Il fallait toujours aller ou bien à Cologne ou à Paris pour prendre un train de nuit, mais avec les inconvénients des ruptures de charge, qu'il fallait changer de train, changer de gare à Paris.
La Belgique, c'est peut-être pas le pays idéal pour le train de nuit.
Bah, d'un côté, oui, parce qu'on est quand même, on a l'accès à l'Eurotunnel, on est quand même assez central. Mais comme on est un petit pays, c'est vrai que pendant 10 ans, on n'a eu aucun train de nuit. Pendant 15 ans, on n'a presque rien eu. Encore maintenant, on n'a qu'un train qui circule qui ne circule que 3 fois par semaine. Donc, on n'est toujours pas bien, très bien loti.
Alors que la France, Benoît Durance, c'est un pays pratiquement idéal pour ça.
Idéal, non, il y a des secteurs. Après, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à quel type d'offre aussi. Parce qu'il y a plusieurs types d'offres. Il y a de métropole à métropole, donc Bruxelles, Marseille, des choses comme ça. Là, il y a un vrai intérêt. Et après, il y a des certes de territoires qui n'ont quasiment pas d'autres services, qui sont très éloignés des lignes TGV. Et là, voilà, et qui sont aussi souvent des lieux touristiques, et donc avec des flux assez importants sur certaines périodes. Mais c'est quelque chose qui a été opposé au train de nuit, de dire la saisonnabilité ou la variabilité dans la semaine. Mais c'est des choses qu'on retrouve sur les autres circulations ferroviaires. Et donc, il faut vraiment, dire, non, il y a des territoires qui ont besoin des trains de nuit. Et il y a toute une population qui prend les covoiturages et les bus dits Macron de nuit, souvent, avec des trajets de nuit. Alors qu'en fait, on a retiré juste avant, quelques années avant, les trains de nuit. Qui transporte beaucoup plus de monde dans un confort bien meilleur.
Quand je disais que c'était une géographie un peu idéale, je pense Paris vers la Côte d'Azur, où il y a un potentiel trafic a priori qui est important, vers tout l'arc sud-ouest, où aussi là, effectivement, a priori, on pourrait se dire que c'est là où le train de nuit a eu, c'est la de noblesse, le train bleu, la palombe bleue, etc.
Donc, la palombe bleue dans notre région, là, pour Tarbes, qui là, maintenant, actuellement, passe par Toulouse, donc ils l'ont réouverte, bien sûr, ça marche. Comme la tranche de Nice aussi fonctionne. Jean-Pierre Farandou l'a confirmé il y a 2 semaines. Les trains nuit réouverts fonctionnent et fonctionnent très bien. Mais on est sur des logiques avec très peu d'ambition, où on rajoute des tranches sur les trains qui existent déjà. Donc on se retrouve avec des tranches de 2-3 wagons pour telle ou telle destination. Alors qu'avant, la Palombe était couplée au Pays Basque. Et donc, on attend qu'il y ait une vraie ambition sur le train de nuit, avec des tranches bien plus importantes, et une vraie politique de reconquête du public par la communication, que les offices du tourisme soient informés, une vraie réflexion sur... les trains de nuit ont été connus en France beaucoup pour aller aussi aux sports d'hiver. Voilà. Et tout l'accès aux montagnes, donc Pyrénées-Alpes, quoi. Il y a un vrai enjeu touristique et ensuite de desservir les villes comme Chambéry, etc. où il y a tout un potentiel à savoir alterner entre l'offre touristique sur les vacances et l'offre des villes qui sont dans ces territoires.
Si on veut relancer le train de nuit, il faut du matériel. Est-ce qu'il y en a encore ? Il n'y en a plus ? Ou plus beaucoup ? Madame Londo, vous qui prenez le train de Briançon, les voitures couchettes, c'est des voitures corail anciennes, elles sont encore à peu près correct.
Oui, elles sont à peu près correctes. Mais enfin, c'est juste une décision politique. Enfin, il faudrait simplement un investissement pour qu'on rénove le matériel et on peut faire des très très bonnes rénovations ou alors carrément reconstruire des nouveaux wagons. Mais il y a absolument une demande et on peut avoir... des gens vont dire, bon, c'est cher, mais il y a différents conforts. Un voyage dans un siège inclinable, c'est vraiment pas cher. C'est même moins cher que le trajet en train de jour TGV-TER. Dans les couchettes, ça peut être un plus ou moins équivalent. Dans les wagons-lits, parfois on a des wagons-lits privatifs, très luxueux, avec même une douche privée. Et ça, il y a aussi une clientèle pour ça, qui est prête à payer ça. Sans avoir ça, on pourrait tout simplement avoir des douches dans les gares d'arrivée. Ça serait aussi très simple.
Alexander Gomme, au niveau matériel, en Europe, il y a beaucoup d'innovations. Oui. Ça change du compartiment couchette.
Oui, en effet. Pour moi, c'est un des grands avantages des trains de nuit. C'est que justement, il peut... offrir un confort adapté à tout le monde, parce que c'est comme le dit madame, il y a les places couchées, il y a les voitures lits, les voitures couchettes et les sièges inclinés, en effet, c'est ça, ou les places assises.
Et si je peux juste rajouter quelque chose aussi au niveau de la demande de différentes clientèles, on sait maintenant que le tourisme à vélo, ça se développe énormément, et rajouter un wagon où on pourrait mettre des vélos ou des gros bagages du genre poussettes ou enfin grosses valises, ça c'est quelque chose qui correspond aussi à une demande. Ça se fait par exemple dans les trains de nuit en Allemagne. En
effet. Alors justement, que font les autres pays européens? Est-ce qu'il y a des choses vraiment, une relance importante, ou ça reste encore un peu poussif parfois?
Non, en fait malheureusement c'est surtout... Il y a une société qui a investi massivement dans le train de nuit, c'est les ÖBB, donc l'opérateur public autrichien. Mais à part eux, en fait, on a eu quelques innovations, quelques achats de petites séries de voitures-lits pour des trains de nuit nationaux, comme en Pologne, comme en Roumanie, en Bulgarie. Mais généralement, en fait, surtout pour les trains internationaux, il n'y a pas eu d'investissement depuis 20, 30, 50, 40 ans, en fait.
Ça reste encore au niveau national?
Oui, tout à fait. Et pour nous, je ne sais pas contre, c'est assez clair que c'est justement ce qui manque au niveau européen et qui existe au niveau national. C'est une institution publique qui détermine un réseau qu'il faut avoir, donc un réseau minimum. Et pourquoi est-ce qu'il y a des trains partout en Belgique, partout aux Pays-Bas, entre 5h et 23h? C'est parce qu'il y a un gouvernement qui l'exige. Et tous ces trains-là, ils roulent sous un contrat de service public. De OSP. Et en fait, c'est ce qu'il faudrait au niveau européen. Pourquoi est-ce que la Belgique réclame des trains de 5h à 23h qui partent à 5 km de la frontière, qui vont jusqu'à 5 km de la frontière de l'autre côté, mais pour traverser la frontière, il n'y a plus rien. Et pour voyager en Europe, non plus. Et c'est ça qu'on croit qu'on a besoin en Europe d'une institution publique européenne qui fasse rouler les trains de nuit. À travers tout le continent.
Donc ça serait à l'Europe, à l'Union européenne, de mettre quelque chose en place selon vous?
Oui, absolument. Enfin, qu'ils fassent la même chose que les pays nationaux le font pour les réseaux nationaux.
Alors il y a quelques initiatives privées?
Oui.
Risquées financièrement peut-être pour elles?
Oui, en effet. Et généralement, on voit aussi que c'est avec du vieux matériel, donc qui commence déjà avec un handicap, parce que comme on n'a plus investi dans le matériel roulant, en fait, c'est toujours en fait les mêmes trains de nuit qu'il y a 30, 40 ans, parfois sans air conditionné, avec des couchettes, trois couchettes superposées, c'est pas très confortable.
Pourquoi les Autrichiens, eux, ont eu cette volonté de développer les trains de nuit avec du matériel moderne, avec des couchages qui donnent envie quand on les voit en photo? Malheureusement, je n'ai pas testé, mais quand on les voit, c'est plutôt sympa.
Ben oui, c'est sympa. Je trouve que tous les trains de nuit sont sympas, ou presque. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Je ne sais pas. Ils ont un peu l'inconvénient du relief chez eux, donc qui ne permet pas ou difficilement de construire des lignes à grande vitesse. Donc ils se sont dit... À un certain moment, il y avait eu une société de consultancy qui leur avait conseillé de fermer toutes leurs lignes internationaux. ils ont hésité à un certain moment, ils ont dit bah non, on veut quand même garder, parce qu'ils ont quand même vu que la demande était toujours là, que les trains de nuit, même à prix élevé, ils étaient toujours remplis. Et à un certain moment, ils se sont dit ou bien on abandonne, ou bien on investit dedans. Et heureusement, pour nous, ils ont investi dedans.
Benoît Durand, ce n'est pas le cas de la France.
C'est pas le cas de la France.
Vous vous sentez un petit peu abandonné, vous qui plaidez pour le train de nuit ?
Bon, y a des affichages politiques qui, pour l'instant, n'ont pas eu beaucoup de suite. Clairement, parce qu'on ne peut pas faire une stratégie, comme il vient d'être expliqué, sur une ou deux lignes. Voilà, ici, il faut investir massivement, il faut un parc de matériel roulant, il faut avoir des sillons fiables, ce qui veut dire que le moindre travaux de SNCF Réseau ne doit pas décaler le train de nuit, ne doit pas annuler un train de nuit, etc.
Et les chantiers, les gros chantiers se font généralement de nuit.
Et les gros chantiers sont généralement de nuit, mais ce qu'il y a, c'est que jusqu'à présent, sur les doubles voies, on en immobilise une et on fait passer les trains sur l'autre avec des installations permanentes ou temporaires de contresens. C'est ce qui se pratiquait jusqu'à encore 15 ans, on va dire. Mais maintenant, vu que la SNCF Réseau n'a plus d'argent, elle économise même sur les gens qui vont faire cette sécurité. Et donc, il fait qu'au lieu d'immobiliser une voie, on en immobilise deux. Et donc, le train de nuit saute. Et ça provoque comme ça un manque de fiabilité. Sur l'offre commerciale aussi, les billets ne sont pas mis en vente ou très en retard, etc. Le Paris-la-Tour de Carole est fermé au mois de février quand tous les gens veulent aller au ski dans les Pyrénées. Quoi. C'est quand même incroyable. Et il y a vraiment un manque d'approche globale sur le sujet et qui fait qu'en fait les trains de nuit sont vraiment la variable d'ajustement. Et donc, bon, vu qu'ils étaient au début prévus pour être totalement annulés et qu'il y a eu un petit retour, la SNCF essaye de s'adapter. Pour l'instant, c'est juste une adaptation. Il n'y a pas un plan global de reconquête du train de nuit. Et de quel territoire on veut, et où seront les centres de maintenance, qui va opérer ces trains et comment, et quelle offensive commerciale, quelle approche commerciale avec les territoires pour que ça serve aux territoires.
Alors qu'en face, on va aborder le sujet qui fâche, il y a une concurrence très forte avec l'avion, qui a des prix d'appel qui sont souvent très bas. Est-ce que le train de nuit peut résister, peut lutter ?
C'est sûr et certain. Ça a déjà été prouvé. Souvent que la demande a toujours resté, malgré que les prix sont beaucoup plus hauts que l'avion. Mais pourquoi est-ce que l'avion a de tels prix si bas? En fait, c'est parce qu'ils sont subventionnés. Donc, il y a souvent les régions qui payent les droits d'atterrissage des avions. Entre autres, chez nous en Belgique, Ryanair à Charleroi ne paye pas ses droits d'atterrissage. Il ne paye pas de taxes sur le kérosène. Il ne paye pas le TVA sur la vente des billets. Donc tout ça, c'est du triche.
C'est une concurrence déloyale pour vous.
Oui, absolument. Tout à fait.
Vous parliez tout à l'heure d'un Bruxelles. Vous donniez l'exemple d'un Bruxelles-Marseille. Effectivement, l'avion, a priori, est plus. Pas forcément concurrentiel, mais va souvent avoir la préférence des usagers.
Mais on voit sur le Paris-Marseille, le train à 85-90% de part modale. Alors qu'en fait, les TGV sont maintenant en 3h30. Donc en fait, il n'y a pas que la question de la vitesse, il y a la question de la fréquence, il y a la question du confort du trajet. Et donc si on a des trains fiables qui font, comme je disais, en plus deux nuits, donc c'est une demi-heure pour s'endormir, une demi-heure pour se réveiller. Si à l'accueil, on a... Voilà, il y a vraiment, là on est sur des corridors ferroviaires qui sont solides, où il n'y a pas des travaux tous les trois semaines comme certaines lignes du Massif Central ou autres. Dans la vallée du Rhône, il y a 6 rails, quoi. Il y a les 2 rails TGV, il y a 4 rails de lignes classiques.
Une ligne de chaque côté du Rhône, sur chaque rive.
Il y a moyen d'avoir des sillons fiables et qui permettent de faire traverser donc, le nord de l'Europe vers le sud. Et après, se poser la question Est-Ouest. Pour nous, l'Occitanie, c'est importante entre l'Italie et Bordeaux, entre Toulouse et par exemple la Bretagne, où avant, il y avait des intercités qui ont tous disparu. Mais il y a plusieurs enjeux à voir, mais déjà, avoir une ambition sur l'endroit où c'est le plus facile, donc les grands corridors européens, où l'Europe est prête à mettre de l'argent sur la signalisation, sur des choses comme ça. Donc mais pour ça, il faut un affichage politique. Il faut une direction politique de l'État vers la SNCF. Et c'est encore dénoncé il y a un an ou deux dans un rapport sénatorial, quoi. les grands problèmes de la SNCF sont le fait que les autorités politiques ne lui donnent pas de direction. Et là, il y a un sujet très très clair sur le train de nuit pour desservir les territoires qui n'auront jamais de TGV et pour faire des relations qui arrivent le matin et non pas à 11h du matin dans les grandes métropoles.
Albert Blondeau, vous, entre guillemets, la concurrence de l'avion, le Paris-Briançon, il n'est pas concerné, c'est peut-être ce qu'il a sauvé d'ailleurs.
Oui, c'est ce qu'il a sauvé. C'était comme la tour de Carole, finalement. En fait, c'était les deux seules lignes où c'était vraiment trop compliqué d'utiliser un TGV et ensuite un TER, donc on a gardé ces trains.
Est-ce que les usagers d'aujourd'hui pourraient avoir le réflexe train de nuit, s'il y en a, ou alors maintenant, beaucoup de gens ont pris ce réflexe avion ?
Oh non, beaucoup pourraient avoir le réflexe train de nuit. Bon, pour commencer, malgré tout, l'enjeu environnemental, climat, il est de plus en plus présent. Enfin, il y a des gens qui, avant, ça ne les touchait pas, maintenant, ça les touche un peu, pas tout le monde, bien entendu, et les coûts sont là, mais encore une fois, c'est uniquement politique. Pourquoi, comme l'a dit mon voisin, pourquoi on favorise tellement fiscalement avec des subventions l'avion et pas le train ? Bon voilà, si on décide d'aider plus le train, ça ira mieux, ça c'est clair.
Ça peut répondre aux attentes des usagers ?
Ah mais oui, absolument, oui, oui.
Alexander Gomme, oui, vous pensez qu'il y a une demande qui peut être forte ?
Sûr et certain, c'est approuvé à chaque fois. Parce que, par exemple, quand la DB, la Deutsche Bahn, a abandonné ses lignes traversant l'Allemagne, la ÖBB en a repris à peu près la moitié.
Donc les chemins de fer autrichiens ?
Oui, les chemins de fer autrichiens. Et bien, ils ont dit dès le début que, en fait, ça couvrait les coûts. Et les trains sont bondés, ils sont pleins tous les jours. C'est le même pour le Bruxelles-Vienne. Quand on veut une place en voiture-lit, ben, il faut réserver des mois à l'avance, sinon il n'y a plus de place.
Même les wagons-lits chers.
Je crois que quand le train Bruxelles-Vienne a été relancé, même avant le premier départ, ils avaient déjà vendu plus que la moitié des billets juste pour les 6 mois à venir. Donc ça prouve bien. Et ça, c'est sans que les gens n'avaient vu un train de nuit en Belgique depuis 10 ans.
Oui, puis il y a le côté quand même un peu, oui, un peu romantique, un peu si on est en famille, on est là. Malgré tout, on oublie que quand on prend l'avion, il va falloir aller à l'aéroport. Il y a tout ce moment d'enregistrement, d'embarquement, qui est des fois stressant avec tous ces trucs de sécurité. C'est aussi du temps perdu où on ne peut rien faire.
En effet.
Albert Blondeau, il y a une petite chose qui vous chiffonne quand même sur le Paris-Briançon.
Oui.
Allez, dites-nous tout.
Alors, ce qui me chiffonne, c'est qu'on ne peut pas utiliser, enfin, nous n'avons plus le droit d'utiliser le train de nuit en cabotage. Alors, utiliser le train de nuit en cabotage, ça veut dire qu'on l'utilise juste pour quelques heures, soit tard le soir ou alors tôt le matin, mais on ne dort pas dedans. C'est-à-dire, on le prend comme s'il y avait un TER qui roulait sur une partie du trajet. Enfin, c'est forcément aux extrémités. Et ça, par exemple, dans les Alpes, ça peut intéresser les gens qui vont vouloir aller en montagne tôt ou qui vont revenir de la montagne tôt. Et puis, ça va intéresser surtout les gens qui travaillent, encore une fois, tôt le matin ou tard le soir, parce que les horaires du train de nuit vont être complémentaires aux horaires du TER qui sont malheureusement chez nous plutôt misérables. Hein. On a très peu de TER. J'ai oublié de le dire en me présentant, mais je fais aussi partie des associations qui défendent les petites lignes, entre autres le collectif de l'étoile ferroviaire de Vienne. Et on se bat vraiment pour que les dessertes de ces TER fonctionnent mieux. Voilà. Et on se bat pour pouvoir utiliser ces trains de nuit en cabotage. Ça se fait dans les autres pays. Ça se faisait avant sur cette ligne-là, il y a encore 6 ou 7 ans. On pouvait monter dans le train de nuit qui arrivait de Paris. Il s'arrête à plein d'endroits, il s'arrête à Gap. On pouvait monter à Gap pour aller à Briançon au petit matin. Maintenant, nous n'avons plus le droit.
C'est vraiment étrange que ça ne se fait plus parce que justement, les chemins de fer autrichiens en font juste une raison d'existence.
Voilà, en plus,
parce qu'ils disent qu'il y en a beaucoup qui enfin, pour certaines villes, c'est le dernier départ le soir.
C'est le dernier départ le soir, c'est le premier départ le matin. Et alors du coup, on se trouve parfois dans la vallée de la Durance, vous avez la voiture qui va rouler à côté du train, vous partez aux mêmes horaires, vous allez au même endroit, mais vous n'avez pas le droit de prendre ce train qui circule. C'est quand même un peu aberrant. Et pouvoir remettre ça en fonction, Ça serait très intéressant.
Et c'est à cause de quoi? Parce que c'est en fait c'est une autre caisse.
Effectivement. Alors il y a déjà ça, cette complication que le train nuit c'est un intercité, c'est au niveau national.
L'activité différente.
Voilà. Et prendre le train Gap-Briançon, ça va être considéré comme un trajet de train régional. C'est les caisses de la région. C'est compliqué. L'argumentaire aussi, c'est que c'est des problèmes de sécurité. Ou de gêne. Bon, mais de toute façon, quand le train de nuit s'arrête à Gap et que les gens descendent, donc il s'arrête, les gens descendent, ça fait peut-être un peu de gêne. Donc que quelqu'un monte, ça fait pas plus de gêne. Enfin, il faut qu'il y ait un personnel, voilà, c'est tout l'histoire, de remettre des personnels dans les gares aussi pour sécuriser tout le monde. Ce sont des emplois utiles. Voilà.
Il
pourrait aussi y avoir juste un wagon supplémentaire avec des places assises là, ça gênerait personne du coup.
On a évoqué effectivement la question du coût. Voilà, si les trains ont disparu aussi, c'est parce qu'ils avaient un coût. Ils étaient déficitaires. Ils n'étaient pas les seuls non plus à être déficitaires en France, mais. Là, c'est vraiment un choix politique fort que vous attendez, Benoît Durand.
Oui, déjà sur les coûts, je voudrais revenir parce que les chiffres des intercités qui ont été fermés, qu'ils soient de jour ou de nuit, montraient qu'ils étaient quand même bien plus remplis que les TER, par exemple. Donc, il y a eu aussi certaines manipulations sur les coûts. Il y a eu notamment l'arrêt des cabotages, les problèmes de réservation, qui ont été clairement une politique délibérée de dire on en a fini avec le train de nuit, donc on fait tout pour que les gens ne le prennent pas.
Un sabotage interne.
Oui, clairement. Sur les sites de réservation où on nous oblige à passer par Paris, à faire des trajets de milliers de kilomètres, alors qu'en fait le train existe. Hein, et on est obligé de dire au guichetier, oui, il y a un train de nuit à tel jour, à telle heure, et même si vous ne l'avez pas, on sait qu'il est là, on va le prendre. Et ici, il y a des choses comme ça, des vraies méthodes commerciales voilà, agressives, dans le mauvais sens du terme. Et ce qu'on aimerait donc déjà, c'est que ça s'arrête avec cette nouvelle envie de train nuit officielle, en tout cas. Sur l'histoire du cabotage, nous, pour les Pyrénées, c'est vraiment réel. Oui, la Tour de Carole, il passe à 5h20 ou quelque chose comme ça à Toulouse. Il pourrait, par exemple, s'il y a un problème sur le train de nuit toulousain, compenser, hein. Et il pourrait surtout amener les gens de Toulouse vers les Pyrénées, alors qu'on a les TER qui sont pleins à craquer. Les TER qui, comme ils sont pleins à craquer les jours de ski, vacances scolaires, etc., il y a des réservations. Donc on peut faire un système de réservation pour les TER. Entre la région Occitanie et les intercités, il y a des conventions aussi pour pouvoir prendre avec un abonnement TER certains intercités. Donc conventionner entre les régions et l'État, donc avec la SNCF comme opérateur, ils savent faire, donc on peut très bien le faire pour les trains de nuit. Ça, c'est ce serait déjà une première vraie avancée, une vraie volonté, enfin, un premier signe qu'il y a une volonté. Et après, donc, il y a la question de se mettre autour de la table pour réfléchir aux offres, regarder les potentiels réels, ne pas s'arrêter au premier détail. Oui, mais alors, les mardis de tel mois, il n'y a personne. Oui, d'accord, mais si on regarde au global, voilà. Au global, si on ajoute tous les vacances scolaires, les vendredis, les dimanches, etc., il y a des centaines de milliers de personnes à transporter.
Si on met un train de nuit, ça doit être au quotidien.
Oui, moi je pense, oui. Et après, on peut réfléchir aux dessertes, mais il doit y avoir ce... Dans tous les transports, et bon, je reprends ma casquette RER, mais et là, dans tous les transports ferroviaires, la fiabilité montre, et le cadencement montrent leur efficacité.
Ouais. C'est que, et de toute façon, c'est
la lisibilité... Ouais. La lisibilité, la fiabilité entraîne...
Et la rentabilité aussi.
Ça entraîne une rentabilité pour l'opérateur, mais ça entraîne surtout pour le public une lisibilité, une habitude et une prise d'habitude. Et comme nous, ce qu'on défend aussi sur le RER, c'est que la région Occitanie est très volontaire sur faire des LGV partout. Actuellement, on ne peut pas, par un train TER, prendre les premiers TGV à Toulouse-Matabiau.
C'est-à-dire que le premier TGV est parti avant que les TER n'arrivent et puissent
donc,
apporter
un peu. Donc, ce qui veut dire, pour l'instant, on incite les gens à prendre la voiture pour aller prendre les trains grandes lignes. Et donc, déjà, si on développe des TER...
Parce que ce sont deux autorités de compétences différentes et qu'on ne va pas se coordonner.
Non, c'est juste que, pour l'instant, la région n'a pas pris l'option TER de mettre une large plage horaire sur une culture SNCF du train moyenne distance... longue distance, et donc si on part de très loin de Toulouse, c'est sûr qu'on arrive à Toulouse plutôt vers 8h que vers 6h30. Mais si on réduit un peu les distances sur le bassin de mobilité, on peut amener les gens au premier TGV, et le soir, on peut amener les gens au train de nuit. Actuellement, pareil, il n'y a aucun train pour arriver sur les trains de nuit de 22h30. À 9h, il n'y a plus personne à Matabiau. Voilà. Cette petite gare minuscule française qui s'appelle Toulouse-Matabiau. Voilà. Et à 9h, vous n'avez plus personne. Donc, il y a un vrai souci là-dessus de penser l'offre ferroviaire en global, et que c'est sûr que quelqu'un qui commence ses parcours en train, il va plus naturellement faire des correspondances en train. Et donc, si les gens ont l'habitude tous les jours d'aller à Toulouse-Matabiau pour aller travailler, ils penseront plus facilement que se dire bah, « mon RER m'amène à Matabiau, bah, tiens, je pourrais prendre un train de nuit » ou « tiens, je pourrais prendre un TGV à 5h du matin ».
Donc là, ils vont plutôt à Blagnac, à
l'aéroport. Là, ils vont à Toulouse-Blagnac et ils prennent l'avion. Ouais. Et parce que la fréquence des avions pour Orly est bien plus importante que la fréquence des trains. Et un autre phénomène qui est très important pour le train de nuit et qu'on voit aussi dans les trains de jour, c'est la fragmentation de l'offre. C'est que la création de Ouigo, la séparation des intercités et des services librement organisés, donc les TGV, toute cette fragmentation de l'offre fait qu'il est très compliqué de passer d'un train à l'autre, et souvent très très cher. Donc il y a toute une politique de dire « oui, mais regardez, on fait des petits prix ». Sauf que si le petit prix, on doit le changer parce qu'on a un changement d'horaire, il devient immédiatement un énorme prix. Et donc, il n'y a pas envie de se faire coincer comme ça plusieurs fois sur des billets de train qui sont à 30 euros et au final, on les paye 100, 130, 150.
C'est une maladie européenne. Ouais. Ce n'est pas qu'en France. Hein, parce que, comme par exemple, quand on doit aller de Bruxelles à Lisbonne en train, enfin déjà maintenant, il n'y a plus de train, mais avant, il fallait un ticket Thalys pour aller à Paris, un ticket TGV pour aller à Hendaye, et puis un ticket de train de nuit. Sauf que s'il y a un qui saute quelque part, même si pas... votre propre faute, mais dès qu'il y en a un qui saute, par exemple le TGV, eh ben vous perdez le voyage et vous perdez l'argent. Donc, qui est-ce qui va prendre encore le train de Bruxelles à Lisbonne? Plus personne. Parce que, c'est quand même vachement risqué. Hein.
Mais même entre TER et TGV, d'ailleurs, on a ce problème. Hein. Si le TER est en retard et me fait louper le TGV, ben, le TGV, lui, il était à l'or. Hein, donc...
Et je me souviens
que... j'ai pas de remboursement.
Pourtant, avant, ça marchait très bien. Parce que quand j'étais petit, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, qu'on allait au guichet de notre ville de province, acheter un ticket Gand-Budapest, ben, ça prenait 2 minutes, tu avais le ticket comme ça, et il était valable 1 ou 2 mois. Vous preniez n'importe quel train, et si quelque part une correspondance qui sautait, et ben, vous preniez le prochain sans moi. Il n'y a personne qui vous dise rien.
Et ce qui est resté en Suisse, hein. En Suisse, n'importe quel train entre Genève et Lausanne, qui soit marqué intercité, qui soit marqué interrégional, qui soit marqué RER, n'importe quel train, avec le ticket, on le prend. Et il peut y avoir X opérateurs, on peut traverser toute la Suisse avec 10 opérateurs différents, c'est un seul ticket. Et Clément Beaune a annoncé qu'il voulait, dans les 2 ans, avoir un ticket unique sur toute la France. Donc on va voir quelle est la traduction derrière, mais voilà.
Est-ce que le train de nuit, c'est pas... une utopie?
Oh non.
C'est une question un peu provocatrice, hein, oui. Pour vous qui êtes les défenseurs du train de nuit.
Mais non, parce que justement, il me semble, on est passé par, enfin en France en tout cas, et même en Europe, puisque en Allemagne, la Deutsche Bahn avait décidé de tout fermer, on est passé par un bas, là, et maintenant quand même, on remonte malgré tout, même si c'est vraiment tout, tout petit, et s'il y a plus d'annonces officielles que de vraiment mise en place des moyens nécessaires, quand même, il y en a un petit peu plus qu'il y a 2-3 ans, et et au moins, pardon.
Vous êtes plus optimiste que moi.
Ben, j'essaye.
Mais parce que, maintenant, on a le nouveau train European Sleeper entre Bruxelles et Berlin, qui va être prolongé normalement l'année prochaine à Prague, et on est super content. Mais on sait que c'est des voitures qui sont plutôt anciennes. En fait, c'est des voitures qui circulaient déjà avant. En fait, donc c'est un train de nuit dont on parle beaucoup, un nouveau train de nuit, mais il a cannibalisé un autre. Donc en fait, au niveau net, au niveau européen, ça reste toujours la même chose. Et avant qu'on puisse avoir de nouveaux trains de nuit, il faut d'abord construire des voitures. Et pour l'instant, il n'y a que les Autrichiens qui en ont commandé, qui entreront en service d'ici fin de l'année, normalement.
Alors moi, je vais être plus positif. Le fait qu'il y ait l'exemple au bébé...
Oui.
Voilà, c'est quand même, ça impose, c'est parce que ça détruit beaucoup de discours qu'il y a eu sur le train de nuit, que c'était dépassé, que les gens n'en voulaient pas, etc.
Oui.
Donc là, il y a quand même une bascule dans le discours. Donc comme toujours, il va falloir un peu des associations qui viennent montrer que techniquement, entre les discours et les actes, il y a quelques soucis techniques à régler et à poser. C'est pas qu'ils sont complexes, c'est qu'il faut les poser, il faut déterminer qui va les résoudre. La grande question en France, c'est que vu qu'on tout à coup on se réveille sur la rénovation du réseau, il va y avoir énormément de lignes qui vont être en rénovation pour les 15 ans qui arrivent. Nous on a le problème sur la transversale sud, hein, le Bordeaux-Marseille, où malgré les trains qui sont pleins, pour l'instant on n'arrive pas à remettre des trains. Il y a une question de la modernisation, notamment de la banalisation des voies, ce que j'expliquais, que dès qu'on travaille sur une voie, qu'on puisse utiliser l'autre dans les deux sens. C'est toutes des choses qui ne sont pour l'instant pas posées, et que la SNCF doit le poser, doit le chiffrer, et le plan à 100 milliards doit dire qui va mettre l'argent sur ces évolutions techniques. Mais en tout cas, on sait grâce aux OBB que si l'offre est cohérente, il y aura le public, et ce sera des services qui ne seront peut-être pas complètement rentables, mais qui ne seront pas loin de la rentabilité. Et donc, on a les trains de desserte, les trains d'équilibre du territoire, système de financement qui est clair et qui peut être prolongé sur les trains de nuit, bien sûr.
Le train de nuit aura toujours des inconvénients par rapport au coût, parce qu'il y a quand même moins de voyageurs qu'on peut mettre dans une voiture lit ou une voiture couchette par rapport à un TGV. Et en plus, il y a plus de personnel aussi, payer des heures de nuit, en effet. Mais ils ne pourront plus prétendre dans le futur qu'il n'y a pas la demande. C'est ce qu'ils ont prétendu pendant les 30 dernières années.
Donc l'avion n'a pas gagné définitivement la partie ?
Non. Et surtout pas si dans le futur, les prix du carburant, le kérosène vont encore augmenter. À un certain moment, les gens vont quand même dire « faut arrêter là ». J'espère.
Et est-ce que l'un de vous connaît les chiffres de l'investissement français par personne dans le rail par rapport à d'autres pays ?
C'est très bas, je sais.
Oui, c'est très bas.
Très, très bas.
Et alors, ça existe, mais je ne les ai plus en tête.
C'est 43 euros en France, 420 euros en Suisse.
Oui, mais la Suisse est
riche. Par habitant.
Mais en Allemagne,
c'est... En Allemagne, c'est 125.
Oui, voilà, c'est ça. Donc en Allemagne, c'est déjà trois fois plus qu'en France.
Donc il y a un manque d'investissement clair. Mais surtout, sur le rapport du CEI là, qui a été rendu il y a un mois, au moment de l'annonce du plan à 100 milliards, David Valence dit bien, il y a les sommes, mais il y a aussi la façon de les dépenser et de comment on va faire. Il a dit que c'est aussi important que les sommes qui seront investies. Et moi, je souscris. C'est qu'il y a une manière de travailler de la SNCF qui s'est trop longtemps focalisée sur un ou deux thèmes. Donc le TGV, bien sûr. La région parisienne comme un îlot hors du temps, quoi, hors du monde, et qui a vraiment du mal à réfléchir, donc nous, nos thématiques, les trains urbains, et deux, à réfléchir tout ce qui sont les trains de nuit, le fret, enfin ces circulations de nuit, où on était avec SNCF Réseau qui a porté toute la dette pendant 20 ans, qui était montée à plus de 50 milliards de dettes.
C'était RFF à l'époque, mais c'est la même chose.
Et donc, et vu que c'était SNCF Réseau qui portait la dette et les intérêts de la dette, ils ont utilisé toutes les techniques pour réduire les coûts, sans aucune réflexion sur les conséquences sur le service. Les exemples sont multiples. Des poses d'aiguillage qui sont moins rapides, et donc derrière, SNCF Voyageurs n'arrive plus à faire circuler les trains comme il faut, et donc on perd de la capacité parce que les aiguillages sont de qualité inférieure. Les exemples sont multiples. Du fait que, vu que SNCF Réseau n'avait pas les moyens et rognait sur le moindre centime, que derrière, en fait, ça s'est chiffré en millions d'euros de pertes par la perte de voyageurs, quoi. Parce que les services ne pouvaient plus être assurés.
Allez, pour terminer, chacun à votre tour, un petit mot de conclusion, monsieur Gomme. Optimiste ?
Moitié-moitié. Donc, au moins, déjà, dans les mots, on a quand même. Dans les paroles, il y a quand même eu du progrès. Mais en termes absolus, il n'y a pas encore eu de grande amélioration, malheureusement.
Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas encore eu d'énormes améliorations, mais au moins le discours a changé. Les politiques n'osent plus dire que ça coûte trop cher et voilà, et plus personne veut le
temps.
Voilà, donc ça, c'est bien. Et ça fait quand même du bien de militer dans des associations, de rencontrer des gens qui ont les mêmes envies. Et avec ça, ça donne une énergie qui fait que à partir du moment où on passe un petit il suffit de 10 ou 15% de gens qui sont engagés dans quelque chose pour qu'on bascule, il me semble. Enfin, donc voilà, je voilà.
Benoît Durand.
Oui, moi aussi. Je pense qu'on est en plus assez lié à la question du fret. Parce que ce sont les mêmes sillons de nuit. Et donc, on peut y avoir aussi, que ce soit sur l'état du réseau, sur la fourniture de sillons par SNCF Réseau, leur fiabilité et tout, il y a un vrai travail qu'on pourrait faire avec les opérateurs de fret qui, en France, se sont réunis sous le terme 4F. Et là, de dire que voilà, là, il y a les deux ont les mêmes intérêts communs sur les questions techniques pour vraiment que les sillons de nuit soient fiables et de définir quels sont les parcours alternatifs, de définir tout ça. Et donc, voilà, si les annonces... Bon, à chaque fois qu'on dit qu'on double le fret, en général, des fois, on le divise par deux 10 ans plus tard. Mais voilà, il y a un moment, ça commence à se voir. Et donc, là, s'il y a toujours l'intérêt de doubler les voyageurs en 2030 et de doubler le fret en 2030, qui sont toujours les annonces officielles du gouvernement, on sait très bien que ce n'est pas possible, mais en tout cas, il va falloir qu'un minimum d'actes suivent. Et je pense qu'il y a, voilà... Sur les sillons de nuit et les parcours alternatifs, etc., il y a un vrai travail qui j'espère, va être mené. Quoi.
Merci à vous trois d'avoir partagé votre passion des trains de nuit. Et bon retour, pas forcément en train de nuit parce qu'il n'y en aura pas, mais bon retour, bon voyage.
Merci.